Bonsoir Marie.
Bonsoir. Avez-vous remarqué, Arnaud, comme certaines œuvres que nous qualifions volontiers de classiques représentent des réservoirs d'idées et d'images dans lesquels plongent allègrement les artistes contemporains? Ce soir, c'est Moby Dick qui retient notre attention, le chef-d'œuvre d'Herman Melville, publié en 1851, qui obsède et fascine des générations de lecteurs. Yannick Hennel, bonsoir. Vous êtes écrivain, essayiste, grand admirateur de la Baleine Blanche. Quels sont selon vous les sillons que Melville a découverts pour qu'autant d'artistes, toutes disciplines confondues, s'y reconnaissent?
Je pense que c'est la question de l'absolu qui est en jeu. Et il me semble que parmi les livres qui affrontent ou qui font face à cette quête de vérité qui ne cesse de se déborder elle-même, qui s'appelle l'absolu, je crois qu'il y a Moby Dick, enfin, qui est vraiment le modèle, pour moi le paradigme, la souche première de cette aventure-là. Et à travers Moby Dick, je ne sais pas, quand j'étais enfant, je sentais qu'il y avait d'autres livres et que Moby Dick les contenait. Moi, j'ai lu Moby Dick avant de lire la Bible, j'ai lu Moby Dick avant de lire Shakespeare, j'ai lu Moby Dick avant de lire Freud, et j'ai même l'impression qu'il y a Freud à l'intérieur de Moby Dick, si je puis me permettre de faire cette blague. C'est une matrice, au fond, de tous les désirs, à la fois masculins et féminins. Je dis féminin, ça peut paraître bizarre, parce que Moby Dick, c'est un livre d'hommes qui ne contient que des hommes. Sauf que ce sont des hommes qui poursuivent une créature étrange que je trouve féminine, qui est la baleine. Alors vous me direz, ça ne marche pas en anglais, mais en français, c'est vraiment la baleine. Et sa lactescence, si je puis dire, son caractère infini et blanc, je l'ai toujours associé à quelque chose, et là je vais encore parler de Freud, qui ressemble à la gradiva sinuant dans les ruines de Pompéi. Je sais que cette créature est imaginaire, mais après tout, est-ce que la baleine existe? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que la déesse existe? Et moi j'ai toujours puisé dans Moby Dick. Je dis toujours, c'est un peu prétentieux. Enfin, depuis que je suis petit, je l'ai relu 2-3 fois, et à chaque fois que j'essaye d'écrire un livre, je suis à la fois écrasé par Melville, et il suffit que je le rouvre, soit dans la traduction de Giono, soit dans celle de Jaworski, que j'ai souligné abondamment, pour retrouver des comprimés de vie, au fond, pour bénéficier d'une effervescence qui me fait penser, qui me fait écrire, qui me fait aimer. Donc c'est ça, j'ai envie de dire que des livres comme Moby Dick, il y en a d'autres, hein, mais des livres comme Moby Dick qui sont toujours premiers, ils sont toujours à l'origine.
C'est en vous écoutant évoquer Moby Dick, en lisant vos commentaires à ce sujet, Yannick Hennel, ou ceux de vos personnages dans vos romans, que la puissance philosophique essentielle de ce livre-monde m'est apparue le plus clairement. Est-ce l'envergure de l'épopée qui se prête à cette transmission lyrique et enfiévrée?
Oui, je pense que c'est un très vieux combat qui a lieu au cœur de Moby Dick. C'est un combat avec le mal, et c'est aussi un combat contre notre propre fascination pour le mal. En général, on associe Moby Dick à la figure fascinante du capitaine Ahab. Et moi, j'ai toujours préféré, enfantinement, j'ai toujours préféré Ismaël, enfin le narrateur, pour une raison très simple, c'est que tous les hommes embarqués sur le Pequod veulent tuer la baleine, et il n'y en a qu'un seul qui ne veut pas la tuer, c'est Ismaël. Et non seulement il ne veut pas la tuer, mais il veut l'aimer. C'est comme s'il avait perçu, et tout le livre est le récit de cette perception, de cet amour, c'est comme s'il avait perçu qu'au cœur de la catastrophe, au cœur de ce qui peut nous tuer, selon la manière dont on l'envisage, il y a peut-être quelque chose d'indemne. L'indemne, c'est vraiment cette part irréductible qu'il y a en chacun de nous, qui échappe à l'enfer, enfin ce qui est non damné, ce qui échappe à la damnation. Et pour moi, Ismaël, c'est le seul qui n'est pas nihiliste, vous voyez, qui est embarqué sur ce baleinier et qui distingue dans cette proie quelque chose d'autre que le mal. Tous les hommes se sont accordés pour dire « elle, c'est le mal, il faut la tuer ». Et lui a distingué l'indemne. Alors pour moi, c'est ça la quintessence de toutes les aventures. Il y a beaucoup de gens qui disent « Moby Dick, c'est pas seulement un récit de chasse à la baleine ». Ben si, en fait. Très simplement, littéralement, c'est un récit de chasse à la baleine qui se retourne, au fond, contre les chasseurs. C'est toute l'histoire du sacrifice, enfin, les chasseurs qui vont mourir, finalement, à cause de leur chasse folle. Sauf que la chasse à la baleine, c'est plus que la chasse à la baleine, c'est ce qu'on fait de nos vies. Comment dire? À la manière dont je pourrais le formuler comme ça, au fond, de manière presque rabbinique. À la manière dont tu vois la baleine, tu sauras si ta vie contient de l'indemne ou non. Celui ou celle qui est capable, comme Ismaël, de distinguer au cœur de la baleine une tête mystiquement alvéolée, comme dit Melville, parce qu'il décrit ça, c'est très beau, il dit que la baleine a l'intérieur de la tête mystiquement alvéolée. Celui ou celle qui est capable de distinguer la tête mystiquement alvéolée de la baleine devient lui-même une part de cet alvéole, une part de cette mystique, une part de cet amour, et en un sens, pour le dire à l'ancienne, il est sauvé, il ou elle est sauvé. Voilà, on peut se dire en lisant Moby Dick, enfin, c'est aussi un livre de sagesse, un livre très fou, complètement fou, pris dans une démonologie, et c'est passionnant, enfin, mais on peut se dire qu'il y a cette leçon-là, enfin, une leçon de vie, enfin, peut-être un peu évangélique finalement, un évangile très bizarre, enfin, réécrit à la sauce shakespearienne dans la langue bizarre de Melville, en anglais, c'est une expérience époustouflante, hein, très hirsute. Et oui, cette leçon, si je puis dire, cette leçon de ténèbres nous invite à aller chercher la rose mystique au cœur même de l'objet que tous veulent sacrifier. En l'occurrence la baleine, mais après tout, c'est quoi? C'est la vie elle-même.
Quand vos personnages dans vos romans parlent de Moby Dick ou s'y réfèrent, est-ce que c'est une façon pour vous d'apparaître à vos lecteurs? Une façon que l'écrivain, justement, se rende présent?
Oui, moi j'aime bien faire apparaître dans mes romans d'autres livres qui sont comme des personnages. C'est aussi ma fraternité intérieure avec Ismaël. Je ne sais pas, je l'imagine tel que je l'ai reforgé. Enfin, je l'imagine entre Saint-François d'Assise et Buster Keaton. Enfin, c'est un petit moussaillon au fond. C'est en même temps quelqu'un qui a le... C'est un mélancolique qui, au début du livre, veut se suicider carrément, enfin... C'est aussi quelqu'un qui n'est ni jeune ni vieux, et c'est quelqu'un qui a encore un rapport avec l'innocence. J'ajouterais à cette petite liste fétiche, au fond, je disais Saint-François d'Assise, Buster Keaton, je dirais aussi le prince Mishkin, vous voyez. Et donc Ismaël, pour moi, c'est mon ami, en fait. Et il est normal, du coup, que je le mette dans chacun de mes livres, au fond. Quand je vais pas bien, quand j'écris mal ou quand j'écris pas, je me dis, bon, c'est pas grave, il y a Ismaël. Vous voyez, c'est lui qui continue le travail. Au fond, c'est le narrateur absolu, le narrateur de tous les livres. C'est ce jeune homme auquel, je dis que je m'identifie, c'est un peu bête. Mais au fond, la littérature, c'est pas que des choses savantes, c'est aussi du non-savoir. C'est aussi une forme d'idiotie volontaire, voilà. J'espère être un peu Ismaël à chaque fois que j'ose écrire un livre. Et j'espère qu'il y a un peu de cette quête, de cette écume-là, de ce rapport avec l'indemne, de cette recherche de la baleine dans les phrases, dans les mots. Je pense qu'il n'y a rien de plus contemporain, au fond, que ce désir-là. Je pense que les mots ne cessent de mourir. Je pense que le langage se rétracte, au fond. Et que les humains n'aiment pas tellement le langage. Enfin, de moins en moins, ils le salissent, ils font comme Akab avec la baleine, ils ont envie de le tuer finalement. Ça se voit, ça s'entend. Enfin, la langue est de plus en plus handicapée, elle boite. Enfin, elle n'a même plus seulement la joie d'avoir une jambe blanche. Enfin, elle est presque plus rien. Et moi, je pense que la littérature, dans sa solitude, au fond, c'est en train de redevenir une chose grandiose, parce que c'est l'amour du langage. Voilà. Moi, je cherche un nouvel amour du langage.
Je vous remercie, Yannick Enel.